Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, c'est votre nouveau rendez-vous La Suite. Nouvelle formule cette saison, 23h15 minuit, c'est plus de France Inter. Une semaine de dossiers 100% France Inter pour retrouver celles et ceux qui ont marqué l'antenne, les grands événements et les sujets qui font toujours l'actualité. Aujourd'hui, deuxième épisode de la série consacrée à Toni Morrison. Prix Nobel de littérature en 93, disparue en août dernier, elle avait 88 ans. Toni Morrison, petite fille d'anciens esclaves qui n'a cessé de fouiller l'histoire des Noirs américains, a connu le sentiment d'appartenance aux États-Unis le jour de l'investiture de Barack Obama. Jusqu'à présent, cette fierté-là, cette émotion face à la bannière étoilée, me semblait réservée aux patriotes blancs. Alors qu'Aretha Franklin entonnait « God bless America », pour la première fois, j'ai été assailli par ce sentiment d'appartenance à une nation. J'ai compris les larmes de Jesse Jackson. C'est à cet engagement que Guillaume Gallienne rend hommage à travers les livres de Toni Morrison et des archives. C'était en septembre 2012 et ça peut pas faire de mal.
Mon objectif, c'est d'accueillir le lecteur, d'accompagner le lecteur à un niveau plus élevé. Je n'ai que 26 lettres à ma disposition.
Toni Morrison.
Et voilà donc les limites de mon travail, mais il faut que je me renouvelle sans cesse.
Ça ne peut pas faire de mal.
Mais je ne veux jamais concurrencer la langue. Il y a des écrivains qui écoutent la musique ou qui prétendent être inspirés comme ça. Je n'essaye pas, moi, d'être musical dans mon expression d'écriture. La langue, c'est la paume de la main qui doit tenir le reste du monde.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça ne peut pas faire de mal.
Ils se sont dressés comme des hommes, on les a vus. Comme des hommes, ils se sont mis debout. On n'aurait pas dû se trouver à proximité de cet endroit. Comme la plupart des terres cultivées à l'extérieur de Lotus, Géorgie, celle-ci comportait une multitude d'avertissements effroyables. Les menaces étaient accrochées à des clôtures en treillis retenues par un pieu tous les 15 mètres environ. Mais quand on a vu un passage creusé par un animal quelconque, un coyote ou un chien de chasse, on n'a pas pu résister. On était seulement des gosses. Elle, l'herbe lui arrivait à l'épaule et moi à la taille. Donc on a traversé le passage à plat ventre en prenant garde aux serpents. La récompense valait bien le mal que le jus d'herbe et les nuées de moucherons nous avaient fait aux yeux, parce que juste en face de nous, à environ 50 mètres, ils se sont dressés comme des hommes. Les sabots en l'air qui cognaient et frappaient, la crinière rejetée en arrière pour dégager des yeux blancs affolés. Ils se mordaient comme des chiens, mais quand ils se sont mis debout, en appui sur leurs jambes de derrière, on a retenu notre souffle émerveillé. L'un était couleur de rouille, l'autre noir profond, tous les deux luisants de sueur. Les hennissements n'étaient pas aussi effrayants que le silence qui a suivi leur ruade. Alors qu'on retraversait l'herbe en jouant des coudes pour regagner le passage et éviter la file de camions garés de l'autre côté, on s'est perdu. Bien qu'il nous a fallu une éternité pour de nouveau apercevoir la clôture, aucun de nous n'a paniqué, jusqu'à ce qu'on entende des voix, pressantes, mais basses. Je l'ai attrapé par le bras et j'ai mis un doigt sur mes lèvres. Sans jamais lever la tête, juste en regardant à travers l'herbe, on les a vus tirer un corps d'une brouette et le balancer dans une fosse qui attendait déjà. Un pied dépassait du bord et tremblait, comme s'il pouvait sortir, comme si, en faisant un petit effort, il pouvait surgir de la terre qui se déversait. On ne voyait pas le visage des hommes qui procédaient à l'enterrement, seulement leurs pantalons, mais on a vu le tranchant d'une pelle enfoncer le pied qui tressautait pour lui faire rejoindre ce qui allait avec. Quand elle a vu ce pied noir, avec sa plante rose crème striée de boue, enfouie à grands coups de pelle dans la tombe, elle s'est mise à trembler de tout son corps. Je l'ai prise par les épaules en la serrant très fort et j'ai essayé d'attirer son tremblement dans mes os parce que, en tant que grand frère âgé de 4 ans de plus qu'elle, je pensais pouvoir y arriver. Les hommes étaient partis depuis longtemps et la lune était un cantalou au moment où on s'est senti suffisamment en sécurité pour déranger ne serait-ce qu'un brin d'herbe et repartir à plat ventre en cherchant le passage creusé dans la clôture. Quand on est rentré chez nous, on s'attendait à prendre une raclée ou du moins à se faire gronder pour être resté si tard dehors. Mais les adultes ne nous ont pas remarqués. Leur attention était accaparée par des troubles. Puisque vous tenez absolument à raconter mon histoire, quoi que vous pensiez, quoi que vous écriviez, sachez ceci, je l'ai vraiment oublié, l'enterrement. Je me souvenais que des chevaux. Ils étaient tellement beaux, tellement brutaux. Et ils se sont dressés comme des hommes. C'était le début de Home, le dixième et nouveau roman de l'écrivain américain Toni Morrison, qui marque la rentrée littéraire avec ce récit bref et bouleversant d'un jeune soldat rentrant de la guerre de Corée. Auteur d'une œuvre engagée sur la condition des Noirs aux États-Unis, Toni Morrison est la première femme noire récompensée par le prix Nobel de littérature en 1993. Présente ce week-end à Paris, elle est l'un des invités d'honneur du Festival américain à Vincennes, Festival des littératures américaines qui fête les 520 ans de la découverte du continent américain. Ce soir, hommage à cette grande dame de la littérature contemporaine dont l'œuvre puissante et poétique interroge toutes les identités, nord-sud, blanc-noir, homme-femme, avec pour seul credo, écrire est l'acte politique par excellence.
Je croyais que tu avais dit que son agonie avait été douce.
C'est pas Baby Suggs ?
Mais qui alors ?
Ma fille.
Commençons par le roman qui a fait connaître Toni Morrison en France. Extrait de Beloved, écrit en 1987.
Elle n'a donc pas vécu ?
Non.
Même les garçons ?
Non, ils sont vivants, j'espère. Ils ont quitté la maison, tous les deux. Ils sont enfuis juste avant la mort de Baby Suggs. Ils ont disparu.
Ah, ça vaut probablement mieux. Tant qu'un noir a des jambes, il a intérêt à s'en servir. Parce que s'il prend racine, quelqu'un trouvera toujours le moyen de l'enchaîner.
Prix Pulitzer en 1988, adapté au cinéma en 1998, ce livre compte parmi les plus grands best-sellers américains des 30 dernières années. Il condense tous les talents de Toni Morrison. Un style épique qui rend compte de la réalité historique de l'esclavage et rend justice à ses victimes. Une dimension fantastique qui fait place à l'irrationnel et au revenant, mais aussi une dimension mythique qui assume l'héritage des traditions anciennes. Dans Beloved, une mère, ancienne esclave, voit le fantôme de sa fille ressurgir 20 ans après ce jour terrible de 1874 où elle préféra, pour ses enfants, la mort à la servitude. Voici le récit du crime de cette Médée noire. Quand arrivèrent en plein après-midi les quatre cavaliers, maître d'école, un neveu, un chasseur d'esclaves et un shérif, la maison de Bloodstone Road était si tranquille qu'ils crurent être venus trop tard. Trois d'entre eux mirent pied à terre, l'autre demeura en selle, le fusil prêt, les yeux braqués sur les alentours de la maison, vers la gauche et vers la droite, car il était très probable que la fugitive tente de filer à toutes jambes. Six ou sept noirs marchaient sur la route en direction de la maison. Le chasseur leur fit signe de ne pas bouger avec son fusil, et ils s'immobilisèrent. Le neveu revint après être allé jeter un coup d'œil dans la maison, se posant un doigt devant les lèvres pour réclamer le silence. Du pouce, il indiqua que ce qu'il cherchait était là-bas, derrière, dans la pentille. Alors le chasseur d'esclaves mit pied à terre, puis tous les quatre se dirigèrent vers la cahute. À l'intérieur, deux garçons saignaient dans la sueur de la terre, au pied d'une femme noire, qui d'une main en serrait un troisième trempé de sang contre sa poitrine et de l'autre tenait un nourrisson par les talons, la tête en bas. Elle ne les regarda pas. Elle balança simplement le bébé vers les rondins de la cloison, manquant son coup et tentait d'atteindre son but une seconde fois lorsque, jaillit de nulle part, dans le tic-tac du temps que les hommes passèrent à regarder fixement ce qu'il y avait à regarder, un vieux noir, le doyen du village, franchit la porte en bondissant dans leur dos et attrapa le bébé au milieu de la trajectoire du lancer de sa mère. D'emblée, il fut évident, surtout pour maître d'école, qu'il n'y avait là rien à récupérer. Les trois, quatre à présent parce qu'elle en attendait un lorsqu'elle s'était sauvée de la plantation, négrillons, qu'ils avaient espéré vivants et en assez bonne santé pour être ramenés dans le Kentucky, ramenés et élevés convenablement pour faire les travaux dont ils avaient désespérément besoin, ne l'étaient plus. Deux gisaient les yeux ouverts dans la sciure de bois. Un troisième se vidait de son sang sur la robe du personnage principal, la femme qui faisait auparavant l'orgueil de maître d'école, celle dont il disait qu'elle faisait de la sacrément bonne soupe, qui lui repassait ses cols comme il aimait, sans compter qu'elle aurait été fertile pendant au moins 10 ans encore. Mais maintenant elle avait perdu la tête, à cause des mauvais traitements du neveu, celui qui l'avait trop battue et l'avait poussée à s'enfuir. Maître d'école avait morigéné son neveu, en lui ordonnant de réfléchir, qu'il pense seulement à ce que ferait son cheval ou ses chiens s'il les battait au-delà des nécessités du dressage. Toute la bande était perdue à présent. 5. Il pouvait encore récupérer le bébé qui se débattait dans les bras du vieil homme, mais qui s'en occuperait? Parce que pour la femme, quelque chose ne tournait plus rond. Elle le regardait à présent, et si son autre neveu avait pu voir ses yeux-là, il aurait été pétrifié de peur. Le neveu, celui qui l'avait tété tandis que son frère la maintenait à terre, ne s'apercevait pas qu'il tremblait. Qu'est-ce qui lui avait pris à cette femme de faire ça? À cause d'une raclée? Sapristi, il avait lui-même été battu 1 million de fois et il était blanc. Mais aucune raclée ne l'avait jamais... Je veux dire, pas question qu'il... Mais elle, qu'est-ce qui lui avait pris de faire ça? Et c'est ce qu'il demanda au shérif qui, planté là, demeurait ébahi, comme eux tous. Il avalait péniblement sa salive encore et encore. Qu'est-ce qui lui a pris de s'en aller faire ça? Le shérif se détourna, puis dit aux trois autres, « Vous feriez mieux de vous en retourner. On dirait que votre mission est terminée. » La mienne commence maintenant. Maître d'école frappa son chapeau contre sa cuisse et cracha avant de quitter l'appentis. Neveu et le chasseur sortirent à reculons avec lui. Ils ne regardèrent pas la vieille femme dans les plants de poivrons avec la fleur à son chapeau. Et ils ne regardèrent pas les quelques 7 visages qui s'étaient rapprochés malgré la mise en garde du fusil du chasseur. Assez d'yeux de nègre pour l'instant. Des yeux de petits garçons noirs ouverts dans la sure du bois. Des yeux de petite fille noire écarquillée entre les doigts poisseux qui lui maintenaient le visage pour que sa tête ne se détache pas. Des yeux de bébé noir se plissant pour pleurer entre les bras du vieux nègre. Mais les pires étaient ceux de la négresse. On aurait dit qu'elle n'en avait plus. Comme leur blanc avait disparu et comme ils étaient aussi noirs que sa peau, elle paraissait aveugle. Le shérif s'adressa à elle. « Il va falloir que je t'emmène pour te boucler. Tu me suis tranquillement, tu entends? Comme ça, je n'aurai pas besoin de t'attacher. » Elle resta immobile. Il s'était décidé à s'approcher d'elle et à plus ou moins ligoter ses mains rouges et poisseuses lorsqu'une ombre derrière lui, dans l'embrasure de la porte, le fit se retourner. La négresse avec la fleur au chapeau entra. C'était Baby Suggs, la vieille sage. Elle constata qui respirait et qui ne respirait plus, puis alla droit au garçon qui gisait dans la poussière. « Je vais demander qu'on m'envoie un chariot, » dit le shérif qui sortit à son tour. Resté seul, le vieillard noir s'approcha de la femme au regard fixe. « 7. Prends mon fardeau et donne-moi le tien. » Mais ni lui ni Baby Suggs ne purent faire lâcher à 7 sa petite fille. Elle s'y cramponnait. Baby Suggs prit le bébé en larmes des bras du vieil homme et le berça contre son épaule pendant 2 bonnes minutes, puis le planta devant sa mère. « C'est l'heure de nourrir ta Benjamine, » lui dit-elle. 7 tendit la main vers le bébé sans lâcher l'enfant mort. Baby Suggs secoua la tête. « 1 à la fois, » dit-elle. Et elle échangea la vivante contre la morte, qu'elle emporta hors de l'appentis. Quand elle revint, 7 dirigea un mamelon sanglant vers la bouche du bébé. Baby Suggs s'écria « Débarbouille-toi ! Débarbouille-moi ça !» Alors elles se battirent. Comme des rivales pour le cœur de l'aimé, elles se battirent, chacune luttant pour saisir le nourrisson. Baby Suggs perdit lorsqu'elle glissa dans une mare rouge et tomba. C'est ainsi que la petite fille prit le lait de sa mère, tout mêlé au sang de sa sœur. Et c'est ainsi qu'elles étaient lorsque le shérif revint, après avoir réquisitionné le chariot d'un voisin. Dehors, une foule, à présent, de visages noirs, cessa de murmurer. Tenant l'enfant vivant, 7 passa devant eux, dans leur silence et dans le sien. Elle grimpa dans le chariot, le profil net comme une lame contre le joyeux bleu du ciel. Profil qui choqua tout le monde par sa clarté. Avait-elle la tête un peu trop haute, le dos un peu trop droit? Probablement. Autrement, les chants auraient commencé immédiatement au moment même où elle était apparue à la porte de la maison de Bluestone Road. Une sorte de cape sonore se serait rapidement enroulée autour d'elle, comme des bras pour la soutenir. Les choses étant ce qu'elles étaient, ils attendirent jusqu'à ce que le chariot fasse demi-tour et en grinçant mette le cap vers l'ouest de la ville. Et alors, pas de parole. Un bourdonnement s'éleva, sans la moindre parole. À l'intérieur du chariot, le bercement avait endormi le bébé. Le chaud soleil avait séché la robe de Seth, qui, raidie, avait pris une rigidité cadavérique.
I think that of the horrors of slavery.
Parmi les nombreuses horreurs de l'esclavage,
some is physical pain, some is psychological pain.
La douleur physique, la douleur psychologique, et ainsi de suite. Je crois que le plus grand traumatisme
is knowing that you have no rights to your children.
C'est celui de savoir que l'on n'a aucun droit sur ses enfants.
Not slave children or black children.
Vous n'avez pas le droit de disposer de vos enfants. Votre enfant appartient à votre propriétaire quand vous êtes esclave.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Découvrons à présent le tout premier roman de Toni Morrison, extrait de « L'œil le plus bleu », écrit en 1970. C'est après avoir reçu le prix Nobel de littérature en 1993 que le public français découvre l'œuvre ultérieure de Toni Morrison. Avant d'écrire sur l'histoire de l'esclavage, l'écrivain, né en 1931 dans une famille ouvrière, décrit la misère et la discrimination qu'elle a connue dans son enfance. Dans l'œil le plus bleu, une fillette de 11 ans, Pecola, rêve d'échapper à sa condition en demandant à un charlatan de changer la couleur de ses yeux afin qu'elle ressemble à cette petite fille blanche qui fait l'admiration de tous dans son quartier. Mais l'humiliation ne vient pas seulement du regard méprisant des blancs, c'est par son propre père, Sholly, un homme violent, désœuvré et alcoolique, que lui arrive la pire des souffrances. Un samedi après-midi, dans la pauvre lumière du printemps, il est entré chez lui en titubant et il a vu sa fille dans la cuisine. Elle faisait la vaisselle. Son dos droit était penché sur l'évier. Sholly l'a aperçu indistinctement et il était incapable de dire ce qu'il voyait ou ce qu'il sentait. Puis il a eu conscience de son malaise. Et ensuite cela s'est dissous en plaisir. Ses émotions se sont enchaînées en passant de la répulsion à la culpabilité, à la pitié, puis à l'amour. Sa répulsion a été une réaction devant sa jeunesse, sa faiblesse, son impuissance. Son dos était voûté d'un côté, sa tête penchée de l'autre, comme si elle se protégeait d'une gifle permanente. Pourquoi avait-elle cet air de chien battu? C'était une enfant sans problème, pourquoi est-ce qu'elle n'était pas heureuse? L'affirmation claire de ses souffrances était une accusation. Il voulait lui briser le cou, mais tendrement. Le remords et l'impuissance sont montés en lui comme une bile. Que pourrait-il jamais faire pour elle? Que lui donner? Que lui dire? Que peut dire un noir liquidé au dos voûté de sa fille de 11 ans? S'il regardait son visage, il verrait ses yeux hagards et pleins d'amour. Le côté hagard l'irriterait, l'amour le mettrait en fureur. Comment pouvait-elle l'aimer? Est-ce qu'elle n'avait pas deux sous de jugeote? Qu'est-ce que pouvaient faire ses mains calleuses pour l'obliger à sourire? Dans ce qu'il savait du monde et de la vie, qu'est-ce qui pouvait lui être utile? Qu'est-ce que ses gros bras et son esprit confus pouvaient accomplir qui lui vaudrait son propre respect et qui lui permettrait d'accepter l'amour de sa fille? Sa haine à son égard s'est transformée en vase dans son estomac et a menacé de devenir vomi. Mais juste avant que le vomi passe de l'anticipation à la sensation, elle a déplacé le poids de son corps et a levé un pied pour se gratter l'arrière du mollet avec l'orteil de l'autre pied. C'était un geste tranquille et pitoyable. Ses mains ne cessaient de gratter dans une poêle et grattaient des petits morceaux de noir dans l'eau de vaisselle graisseuse et froide. L'orteil timide et replié, la mère de Pecola, Pauline, faisait la même chose la première fois qu'il l'avait vue dans le Kentucky. Appuyée contre une barrière, le regard fixé sur rien en particulier. L'orteil crémeux de son pied nu qui grattait une jambe de velours. C'était un petit geste tellement simple, mais il l'a rempli d'une tendresse étonnante. Pas le désir habituel d'écarter des jambes serrées avec la sienne, mais une douceur, une envie de la protéger. le désir de lui recouvrir le pied avec la main et de lui grignoter le mollet avec les dents là où ça grattait. C'est ce qu'il avait fait autrefois, et Pauline avait ri. Il a recommencé. La tendresse a enflé en lui, et il est tombé à genoux, les yeux fixés sur le pied de sa fille. Il a rampé vers elle à quatre pattes, et il a levé la main pour attraper le pied dans une caresse maladroite. Pecola a perdu l'équilibre et a failli tomber. Choly a levé l'autre main vers ses hanches pour la retenir. Il a baissé la tête et il lui a grignoté l'arrière de la jambe. Sa bouche tremblait au contact de la ferme douceur de la chair. Il a fermé les yeux et a laissé ses doigts s'enfoncer dans sa taille. La raideur de son corps bouleversé, le silence de sa gorge frappée de stupeur était meilleur encore que ne l'avait été le rire insouciant de Pauline. Le mélange confus des souvenirs qu'il avait de Pauline et de cet acte violent et interdit l'a excité, et un éclair de désir a descendu dans ses parties génitales. Il a bandé. Tout autour de ce désir, il y avait une frontière de politesse. Il a voulu la baiser tendrement, mais la tendresse n'a pas duré. Son âme a semblé glisser dans son ventre et jaillir en elle, et sa gigantesque poussée pour la pénétrer lui a arraché le seul son qu'elle a émis, le bruit de l'air qu'elle aspirait au fond de sa gorge, comme un ballon de baudruche qui se dégonfle brusquement. Après la désintégration, l'affaissement du désir sexuel, il a eu conscience des mains humides et savonneuses de Pecola sur ses poignets, les doigts serrés. Mais il a été incapable de savoir si son étreinte venait d'une tentative vaine mais obstinée pour se libérer ou d'une autre émotion. Se retirer d'elle était si douloureux qu'il a abrégé en arrachant son sexe du port sec de son vagin. Elle semblait évanouie. Choly s'est relevée et n'a pu voir que sa culotte grisâtre, si triste et si molle autour de ses chevilles. De nouveau, la haine mêlée à la tendresse. La haine l'a empêchée de la relever. La tendresse l'a obligée à la couvrir. Ainsi, quand l'enfant a repris conscience, elle était allongée sur le sol de la cuisine sous un lourd couvre-pied, et elle essayait d'établir un lien entre la douleur qu'elle ressentait entre ses jambes et le visage de sa mère indistinct au-dessus d'elle.
Toni Morrison, vous n'avez donc pas connu l'humiliation, l'aliénation de la petite Pecola qui aime tellement les critères imposés par les Blancs, qu'elle veut avoir les yeux bleus et qu'elle va se rendre aveugle, on va lui crever les yeux pour qu'elle ait les yeux bleus. Comment avez-vous pu rentrer aussi profondément, aussi justement, dans cette souffrance et dans cette douleur que représente Pecola?
Well, I just sort of use my imagination.
J'ai simplement utilisé mon imagination en essayant de ressentir ce qu'un enfant peut ressentir, donc l'être le plus vulnérable de la société, une petite fille noire, jamais prise au sérieux. Parce qu'une partie de cette haine de soi ne vient pas seulement des Blancs, elle vient aussi des Noirs, qui ont la même révérence. Lorsqu'on voit dans les médias, par exemple, qui est beau, qui est considéré comme merveilleux, on ne voit pas de femmes noires comme mannequins. Je peux comprendre, un enfant, même mes petits-enfants à qui on donne des poupées, pratiquent une forme de discrimination. Ils essayent de décider qui est le plus aimé et à quoi ressemblent ceux qui sont les plus aimés.
Après les tragédies, heureusement, place à de l'humour. Extrait de la chanson de Salomon, écrit en 1977. C'est avec ce roman, passionnante saga familiale, saluée par le Grand Prix de la critique américaine, que Toni Morrison accède à la notoriété dans son pays. Au début des années 1950, un jeune noir, issu d'un milieu aisé d'une ville industrielle du Michigan, part en quête de ses racines indiennes sur les terres sauvages de Pennsylvanie. Depuis sa tendre enfance, il est surnommé le laitier, pour avoir trop longtemps tété le sein de sa mère. Dans le passage suivant, le voici en pleine discussion avec son père, qui lui apprend les origines de leur étrange nom, Macon Mort. Si le patronyme prête à la plaisanterie, « Je crains rien, je suis déjà mort », dira souvent le héros, la description de la ferme paternelle est-elle aussi prétexte à un drôle de résumé de l'histoire des États-Unis, mélange d'utopie et de fable animalière. Je travaillais côte à côte avec mon père, à côté de lui. Depuis l'âge de 4 ou 5 ans, on travaillait ensemble, juste nous deux. Notre mère était morte à la naissance de ta tante, Pilate. Pilate n'était qu'un bébé. Elle passait les journées dans une autre ferme. Je la prenais dans mes bras pour la porter là-bas moi-même tous les matins. Puis je traversais les champs pour rejoindre mon père. On attendait président Lincoln à la charrue et c'est comme ça qu'on appelait la jument, président Lincoln. Papa disait que Lincoln avait été un bon laboureur avant d'être président et qu'on ne devait pas enlever un bon laboureur à sa charrue. Il avait appelé notre ferme Paradis Lincoln. Une toute petite ferme que c'était, mais elle me semblait grande en ce temps-là. On avait un étang de 4 arpents et un ruisseau plein de poissons, en plein cœur d'une vallée. La plus jolie montagne que t'aies jamais vue, les crêtes de Montour, jusqu'au nord de la Susquehanna. On avait une porcherie à 4 boxes et une grange de 42 mètres de long. Et tout autour, dans les montagnes, il y avait du chevreuil et du dindon sauvage. Tu peux pas savoir ce qui est bon si t'as pas goûté le dindon sauvage comme papa le préparait. Il le laissait rôtir à la broche pendant 24 heures. Et la viande était tendre, goûteuse, juteuse. Ma compère s'interrompit et laissa monter un sourire à ses lèvres. Il n'avait rien raconté de tout cela depuis des années. Au début de son mariage, il parlait souvent à sa femme du paradis Lincoln. Assis sur la balancelle de la terrasse dans l'obscurité, il recréait la terre qui aurait dû être la sienne. Ou encore, au moment où il venait de se lancer dans les affaires immobilières, il s'attardait chez le barbier pour échanger des histoires d'hommes. Depuis des années, il n'en avait pourtant plus eu le temps, ni l'envie. Mais maintenant, avec son fils, Macon, 3e du nom, cela le reprenait. Et le moindre détail de cette terre lui était présent à l'esprit. Le puits, la pommeraie, la jument, président Lincoln, Ulysse Grant, leur vache, général Lee, leur cochon. C'était par ces animaux qu'il savait ce qu'il avait retenu de l'histoire de son pays. Son père ne savait ni lire ni écrire. Il ne savait que ce qu'il avait vu ou entendu raconter. Il n'en avait pas moins gravé dans l'esprit de son fils certains personnages historiques et, petit écolier, celui-ci pensait au caractère de son cheval ou de son cochon quand il lisait l'histoire de ces gens-là. Son père avait peut-être baptisé pour rire leur jument de labour président Lincoln, mais Macon pensa toujours à Lincoln avec affection. Il aimait même le général Lee, car ils le tuèrent un beau printemps et mangèrent la meilleure viande de porc qu'il fût. « Moi j'aimais bien le général Lee, » dit-il au laitier. « Le meilleur général que j'ai jamais connu. Même ses couilles étaient succulentes. Circé a mitonné le meilleur pot de tripe de sa vie. Et j'avais oublié son nom à cette femme-là. C'est ça, Circé. Elle travaillait dans une grosse ferme qui appartenait à des Blancs à Danville, Pennsylvanie. Curieux comme les choses vous reviennent. Un terrain de course de chiens qu'ils avaient. C'était le grand sport en ces temps-là. Les Blancs adoraient leurs chiens. Ils pouvaient tuer un nègre et se faire une raie dans les cheveux en même temps. Mais j'ai vu des hommes Blancs adultes pleurer pour leurs chiens. » Le laitier avait l'impression que la voix de son père était changée, moins dure, plus méridionale, plus détendue, plus douce. À son tour, le garçon parla d'une voix douce. « Pilate m'a dit que quelqu'un avait tiré sur ton père, qu'il a sauté de 5 pieds en l'air. Qui lui a tiré dessus, papa ?» Macon reporta les yeux sur son fils. Papa ne savait pas lire, il ne savait même pas signer son nom. Il avait une marque pour ça. Ils l'ont feinté. Il a signé quelque chose, je ne sais pas quoi, et ils lui ont dit que c'était eux les propriétaires de la terre. Il n'a jamais lu un mot. Il aurait dû me laisser lui apprendre. Tout le mauvais qui lui est arrivé, c'est parce qu'il ne savait pas lire. On lui a bousillé son nom parce qu'il ne savait pas lire. Son nom ? Comment ? Quand la liberté est venue. À ce moment-là, tous les gens de couleur de l'État ont dû s'inscrire au bureau des affranchis. Ton père était esclave ? Quelle question idiote, qui ne l'était pas en 1869 ? Ils devaient tous s'inscrire. Affranchis et anciens esclaves. Papa était tout jeune. Il est allé s'inscrire, mais le type derrière le bureau était saoul. Il a demandé à papa où il était né. Papa a dit Macon. Puis il lui a demandé qui était son père. Il a répondu, il est mort. Eh bien, le Yankee a tout écrit, mais dans les mauvaises cases. Dans la case du nom, il a écrit mort, virgule Macon. Papa n'a jamais su comment il était inscrit, jusqu'à ce que maman le lui dise. Ils se sont rencontrés sur un chariot qui montait vers le nord. Ils ont commencé à parler. Il lui a dit qu'il était affranchi. Il lui a montré ses papiers tout fier. Quand elle a regardé, elle lui a lu ce qui était marqué. Il n'avait pas besoin de garder ce nom-là, pas vrai? Il aurait pu se servir de son vrai nom. Maman l'aimait bien. Le nom, je veux dire. Il a dit qu'il était tout neuf et qu'il effacerait le passé. Qu'il effacerait tout. Voilà.
Je voulais écrire un livre qui serait une communication intime à l'intérieur de la communauté, que les Afro-Américains sentent que ce message émanait de quelqu'un de proche d'eux. Avec l'espoir néanmoins que, comme chaque écrivain le fait, qui écrit au sein de sa propre culture, que les gens extérieurs à cette communauté seraient également intéressés. Mais que la communication était destinée aux gens de ma propre communauté.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
Évoquons à présent l'œuvre théorique de Toni Morrison, extrait de Playing in the Dark. En 1992, l'écrivain publie un essai qui rassemble une série de conférences qu'elle a données à l'université de Harvard. Elle y analyse le rôle des personnages noirs dans la littérature blanche d'Edgar Poe à Faulkner. La même année, elle publie un roman au titre évocateur, Jazz. La musique est très présente dans l'œuvre de Toni Morrison, tant par la musicalité de certaines pages que par l'importance des chants traditionnels dans ses récits. Voici un extrait d'une conférence où elle s'interroge sur la possibilité d'une écriture libérée des préjugés raciaux. Sa réflexion prend pour point de départ la musique de Louis Armstrong. Ma première crise d'angoisse a débuté au cours d'un concert d'Armstrong. J'avais entre 19 et 20 ans. Armstrong allait improviser avec sa trompette. Il allait construire toute une musique où chaque note serait importante. Aurait en soi une nécessité à l'ensemble de cette nuit musicale. Je n'ai pas été déçu. L'ambiance a chauffé très vite. Les sons qui sortaient de l'instrument se tassaient par moments les uns contre les autres, s'emmêlaient, se bousculaient pour former une assise musicale, une sorte de matrice de laquelle naissait une note précise, unique, dont le chemin sonore était presque douloureux à suivre tant son équilibre et sa durée étaient devenus indispensables. Elle arrachait les nerfs de ceux qui l'avaient suivi. Mon cœur s'est mis à battre très vite et très fort, tant et tant qu'il est devenu plus important que la musique. Il secouait les barreaux de ma cage thoracique, il gonflait, comprimant mes poumons dans lesquels l'air ne pouvait plus entrer. Éprise de panique à l'idée de mourir, là, dans ces hurlements de la foule, je me suis sauvé. J'ai couru dans la rue, comme une folle. Il y a quelques années, en 1983, je crois, j'ai lu ce livre « Les mots pour le dire » de Marie Cardinal. C'est son titre qui m'a attiré. 5 mots pris à boileau qui décrivent clairement tout le programme et l'ambition d'un romancier. Je me souviens d'avoir souri en lisant ces lignes, en partie par admiration pour un souvenir si net, si présent de la musique, en partie à cause de ce qui a surgi dans mon esprit. Que diable Louis jouait-il donc ce jour-là? Qu'avait-il dans cette musique pour jeter à la rue cette jeune fille sensible et à bout de souffle, où elle est frappée par la beauté et les ravages d'un camélia déchiré? Un récital d'Edith Piaf ou une œuvre de Dvorak aurait-il eu le même effet? Ce qui a attiré mon attention, c'est de savoir si les connotations culturelles du jazz pouvaient provoquer un tel phénomène de possession. Je m'intéressais depuis longtemps à la façon dont les Noirs déclenchent des moments cruciaux, des révélations dans une littérature qu'ils n'écrivent pas. La catalyse de Louis Armstrong m'a encouragé à réfléchir aux conséquences du jazz, à son impact viscéral, émotionnel et intellectuel sur l'auditeur. J'inclus ici ces pensées que j'ai eues en lisant ce livre parce qu'elles identifient les étapes de mon intérêt pour l'usage si répandu des images noires et des noirs dans la littérature et l'effet qu'elles ont sur l'imagination du lecteur. Dans le récit de Marie Cardinal, par exemple, les noirs, les gens de couleur, sont les indices de la bienveillance et de la perversité, du spirituel et du voluptueux, d'une sensualité coupable mais délicieuse. Si ces sujets prennent tant de place pour moi, c'est d'abord parce que je suis un écrivain noir qui se débat avec et à travers un langage qui peut évoquer et renforcer puissamment des signes cachés de supériorité raciale, d'hégémonie culturelle, rejeter l'altérité de gens et de langage qui ne sont en aucune façon marginaux. Ma vulnérabilité serait de rendre la noirceur romantique plutôt que de la diaboliser, d'avilir la blancheur au lieu de la réifier. Le genre de travail que j'ai toujours voulu faire exige que j'apprenne à manœuvrer la langue pour la libérer de l'emploi parfois sinistre, souvent paresseux et presque toujours prévisible, d'enchaînements racialement déterminés et chargés de sens. Or, jusqu'à une date très récente et sans tenir compte de la race de l'auteur, les lecteurs de quasiment toutes les œuvres de fiction américaine ont été identifiés à des blancs. Je cherche à savoir ce que ce présupposé signifie pour l'imagination littéraire. Quand l'inconscient racial où la conscience de l'identité raciale enrichissent-ils le langage? Quand l'appauvrissent-ils? Qu'est-ce que cela entraîne de positionner son être d'écrivain comme non-racial dans la société entièrement racialisée des États-Unis ? Qu'arrive-t-il à l'imagination d'un auteur noir qui reste à certains niveaux toujours conscient de représenter sa propre race devant une race de lecteurs qui se pense comme universelle ou sans race ? En d'autres termes, comment se constituent la blancheur et la noirceur littéraire et quelle en est la conséquence ? Un langage racial non raciste peut-il fonctionner dans le projet littéraire qui se prétend humaniste ? Réfléchir sur ces sujets a été pour moi un défi en tant qu'écrivain et lectrice. Oui, j'ai voulu identifier les moments où la littérature américaine a été complice de la fabrication du racisme, mais j'ai voulu voir tout autant les endroits où la littérature l'a miné et l'a fait exploser. Je suis chaque fois stupéfaite du trésor qui se cache dans la littérature américaine. À quel point s'impose l'étude des écrivains qui prennent la responsabilité de toutes les valeurs qu'ils mettent dans leur art. À quel point nous éblouit la réussite de ceux qui ont cherché et fouillé un langage commun en quête de mots pour le dire.
What is interesting is that I understand.
Ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, je comprends pourquoi les hommes noirs écrivent sur les hommes blancs.
Because they are the oppressor.
Parce qu'ils se sentent face à l'oppresseur, une sorte d'ancien ennemi. Je comprends aussi pourquoi les femmes blanches écrivent sur les hommes blancs. Il s'agit de leur mari, de leur fils, de leur frère.
Et
je comprends aussi pourquoi les hommes blancs écrivent sur eux-mêmes.
Mais in a purely
Si on s'arrête un instant et qu'on se place d'un point de vue purement esthétique, mental, voire théorique, et qu'on se débarrasse de la notion de l'homme blanc, à ce moment-là, le monde s'ouvre.
Suddenly, the whole world opens up.
Totalement.
It doesn't close, it opens up. Because you don't have the gaze.
On n'enlève pas quelque chose, au contraire, le monde s'ouvre parce qu'on n'a plus ce regard de l'homme blanc qui juge et qui juge encore.
Et voici pour conclure une scène qui dénonce la diabolisation de l'étranger. Extrait de l'avant-dernier roman de Toni Morrison, Un don. Dans ce roman qui retrace l'histoire de la colonisation américaine au XVIIe siècle, Toni Morrison imagine une exploitation modèle, celle du Hollandais Jacob Vark qui accepte une fillette noire, Florence, en paiement d'une dette. À la ferme, elle rejoint deux autres domestiques, Lina, une indienne dont la tribu a été décimée, et Sorrow, une sauvageonne blanche. Ces femmes, orphelines et déracinées, apprennent à vivre ensemble jusqu'à ce que leur maîtresse, Rebecca, tombe malade en l'absence de Jacob, souvent parti pour affaires. Alors qu'elle est envoyée à la recherche d'un guérisseur, Florence est accueillie pour une nuit chez une veuve et sa fille, une jeune fille soupçonnée d'être un démon et fouettée jusqu'au sang. Florence découvre la violence des préjugés religieux d'une autre communauté blanche. Voici le récit qu'elle écrit à l'attention de l'homme qu'elle aime. J'avance dans la pièce. Se tiennent là un homme, trois femmes et une fillette qui me fait penser à moi lorsque ma mère m'envoie loin d'elle. Je me dis qu'elle est vraiment mignonne, mais elle se met à hurler en se cachant derrière les jupes d'une des femmes. Puis les visiteurs se tournent les uns après les autres pour me regarder. Les femmes restent bouche bée. La canne de l'homme tombe bruyamment par terre. Il ramasse son bâton, le pointe sur moi en disant « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Une des femmes se couvre les yeux en disant « Que Dieu nous vienne en aide !» La veuve agite les bras et dit que c'est son invité qui cherchait un abri pour la nuit. Nous l'avons gardé, comment aurions-nous pu faire autrement ? Une des femmes prend la parole pour dire « Je n'ai jamais vu d'être humain aussi noir. » « Moi si, » dit une autre, « elle est aussi noire que les autres que j'ai vues. Elle est d'Afrique. Africaine et bien plus encore, » ajoute une autre. « C'est donc vrai, » dit une autre, « l'homme noir est parmi nous, et celle-ci est sa servante. Je ne comprends rien du tout, sauf que je suis en danger. » Il me montre la direction d'une porte menant à une remise, et là, au milieu des coffres de voyage et d'un rouet, ils me disent de me déshabiller. Sans me toucher, ils me disent ensuite ce que je dois faire, leur montrer mes dents, ma langue. Ils regardent sous mes bras, entre mes jambes, nus sous leur regard curieux. Je cherche à lire ce qu'il y a dans leurs yeux. Ni haine, ni peur, ni dégoût, mais ils regardent mon corps de très loin, d'une distance infranchissable. Les cochons me regardent de plus près lorsqu'ils lèvent leur groin de leur auge. Ils finissent par me dire de me rhabiller et ils quittent la pièce en fermant la porte derrière eux. Je remets mes vêtements. Je les entends se disputer. Il ne semble pas si évident de savoir si je suis ou non la servante de l'homme noir. J'entends des noms, Satan, Lucifer. En partant, l'homme me dit de ne pas quitter la maison, qu'il va revenir. Jane, la fille de la veuve et moi sortons de la maison. Nous la contournons à toute vitesse pour gagner le bois. Jane ouvre la voie. Le soleil se vide et déverse ce qui lui reste à travers les ombres des arbres. Nous arrivons à un ruisseau, presque tari mais plein de boue. Jane m'explique le chemin. Je la remercie et prends sa main pour l'embrasser. Elle dit « Non, c'est moi qui te remercie. Ils t'ont regardé et m'ont oublié. Es-tu un démon ?» je lui demande. Elle sourit. « Oui, » dit-elle. « Va-t'en maintenant. » J'avance seul, accompagné des yeux qui me suivent dans mon périple. Des yeux qui ne me reconnaissent pas. Des yeux qui m'étudient et cherchent une queue, un pénis d'homme entre mes jambes. Ils veulent savoir si ma langue est fourchue, si je peux surgir des ténèbres pour les mordre. Au fond de moi, je me recroqueville. Je sens tout ce qui me quitte. Quelque chose de précieux est en train de me fuir. Je deviens une chose à part. Je suis un suppôt qui possède une noirceur avec laquelle je suis né. Au dehors, certes, oui, mais à l'intérieur aussi. Est-ce là ce que c'est ma mère? Est-ce pour cela qu'elle a choisi de m'envoyer au loin? Non pas la noirceur extérieure que nous partageons, Amina Mae et moi, mais cette noirceur intérieure que nous ne partageons pas. Soudain, ce n'est plus comme avant, quand j'ai toujours eu peur. Je n'ai plus peur de rien maintenant. Le soleil laisse les ténèbres derrière et le noir, c'est alors moi. Le noir, c'est moi. Tout cela, je ne peux le dire à personne d'autre que toi. Tous ces mots que je grave sur les murs sont pour toi. Que ferai-je de mes nuits lorsque le récit s'arrêtera? Les rêves de Mina Mae ne reviendront plus. Mais tout à coup, je me souviens. Tu ne liras pas mon récit. Tu lis le monde, mais pas les lettres du langage. Tu ne sais pas le faire. Peut-être un jour apprendras-tu. Si c'est le cas, reviens dans cette ferme et entre dans cette pièce qui parle en plein jour. Si tu ne lis jamais cela, personne ne le fera. Ces mots précis, refermés et grands ouverts, se parleront à eux-mêmes. Tout autour, d'un côté et de l'autre, de bas en haut, à travers toute la pièce, ou bien, ou peut-être pas. Peut-être que ces mots ont besoin de l'air qui se trouve au dehors dans le monde, besoin de s'envoler puis de tomber comme des cendres sur des arpents de prime vert et de mauve, sur un lac turquoise au-delà des sapins séculaires, à travers les nuages coupés par l'arc-en-ciel pour parfumer le sol de la terre. Tu vois, tu as raison. Amina Mae aussi. Je suis devenue la sauvagerie incarnée, mais je suis aussi Florence. Pleinement, impardonnable, qui ne pardonne pas. Pas de pitié, mon amour, aucune. Tu m'entends? Esclave, libre, je jure.
C'était France Inter, plus de Toni Morrison, vu et lu par Guillaume Gallienne dans « Ça peut pas faire de mal ». Demain, Toni Morrison veut être considéré comme un auteur afro-américain au micro de Paul Ajac. C'est sa revendication dans Cosmopolitaine, réalisation Hélène Bisio, à la technique Anne-Laure Cochet. Alors à demain.